Bonjour, bienvenue dans la bande originale et évidemment une très très belle année, surtout une très belle santé à toutes et à tous. Pour bien débuter 2020, nous parlons de vin, sans mauvais jeu de mots, avec 2020, avec ce matin, une bande au grand complet réunie autour de Pierre Arditi.
Pourquoi les applaudissements s'éteignent quand on vient de dire mon nom? Je ne comprends pas.
Non, c'est parce qu'on est au bout du rouleau. Pierre,
alors,
le goût de ma vie, c'est à vous qu'on va demander ça. Oui. Mise en bouche et aparté, Christophe Cazaza. C'est-à-dire, comment vous avez travaillé tous les deux? Vous êtes raconté à Christophe qui a pris des notes?
Non, pas du tout, non. Enfin, oui, on a d'abord parlé beaucoup comme ça. Il m'a donné un certain nombre de notes, mais les textes sont des textes que j'ai écrits seul, parce que je n'ai pas.
Alors vous n'aviez pas envie spécialement de faire une biographie, mais
non, c'est pas une biographie, c'est une manière de traverser.
Oui, il y a un parcours quand même.
Oui, il y a un petit voyage au pays de ma vie dans tous les sens du terme et à des âges tout à fait différents.
Et ce voyage est justement
chronologique. Et à quel moment ça croise la route du vin?
C'est ça. Voilà. Ce voyage est quand même chronologique. On voit vos débuts. On passe par la Belgique. On passe par Lyon. On voyage beaucoup. On voyage en train. Vous regrettez d'ailleurs. Et c'est vrai que d'un coup, il y a ce flash.
La locomotive à vapeur.
Non, le fait de simplement pouvoir sortir la tête du wagon.
Et puis les fenêtres ne s'ouvrent plus.
Et Pericolosos pour Jersey, c'est-à-dire que voilà, à l'époque, on pouvait sortir, mais là, ça fait vraiment discussion de vieux déjà pour démarrer.
Ouais, c'est vrai, parce que moi, je n'ai jamais sorti
jamais
la tête d'un train.
C'est très sympa. Il faut que je revienne plus souvent dans cette émission. On me fait bien comprendre que je suis un homme d'un siècle.
Mais pas du tout.
On l'a
vécu.
Qui n'ont absolument pas connu.
On l'a vécu. Albert a même vécu la naissance de la première locomotive.
Ah, bah, bien sûr.
Pour vous dire si.
À l'époque d'Albert, il n'y avait pas de porte.
L'entrée en gare de la Ciotat, j'y étais.
Mais ce voyage, cette promenade, en effet, on l'a fait dans votre vie, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rencontres humaines, et au milieu de tout ça, j'allais dire le vin, non, les vins, c'est-à-dire qu'ils sont de toutes les couleurs, ils sont de toutes les racines, de tous les arômes, même ceux avec des bulles, vous rappelez, vous précisez, le champagne, n'oublions pas, c'est un vin.
C'est du vin. Oui,
voilà, c'est du vin. Oui, oui. Et vous le décrivez, vous le racontez, à la fois comme un amateur au sens amoureux du terme, mais aussi comme un connaisseur, parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a des chiffres, il y a des quantités, il y a des grammes, il y a des calculs, il y a des durées, enfin c'est pointu aussi par moment.
Par moment, mais j'espère que ça n'est pas rébarbatif.
Non,
c'est toujours.
Non, c'est surprenant que vous soyez aussi pointu, parce que vous pourrez être que dans le goût, et vous êtes aussi dans la connaissance de la fabrication.
Oui, parce que c'est intéressant de voir comment les gens font, comment ils se servent de ce produit de base qui est du raisin, du simple raisin, et on se demande comment ça peut devenir quelquefois cette matière absolument phénoménale et précieuse et unique qu'est le vin. Quand on boit un verre de vin, on boit d'abord l'âme de celui ou de celle qui l'a fait, et ensuite, dans la seconde où on trempe ses lèvres, on part en voyage et dans une géographie qui est à la fois humaine et paysagère, qui est unique, et dans laquelle, effectivement, tout ça s'imprime dans votre propre mémoire, ou dans votre propre âme, pour employer un mot que je ne devrais pas employer, puisque moi je suis un athée mystique, d'accord, mais un athée quand même. Et donc, voilà, ça se balade comme ça, quoi. Bon,
oui,
balader comme ça, et Cazaza, lui, est allé en profondeur sur un certain nombre de choses sur lesquelles il est beaucoup plus calé que moi. Évidemment, et sur les
procédés,
techniques, les terroirs, les machins, la terre, le sol, par exemple, très important.
Et ce que vous avez dit plusieurs fois dans cette phrase, les gens, le côté humain.
Les gens, oui.
Alors, il y a les gens, il y a ceux qui le font, et il y a ceux avec qui on partage, parce que il est peu imaginable d'ouvrir une bouteille de vin seul.
Pour soi seul, non, c'est pas
fait
pour ça.
C'est partage, c'est ensemble.
C'est pas fait pour ça.
Une réaction, Marina, un commentaire?
Non, mais je vous dis, des samedis soirs, parfois on est bien chez soi, on se fait couler un bain, et puis on peut s'ouvrir une bouteille à soi, je sais pas.
Mais pour, toute seule?
Oui, peut-être.
Oh, ma petite fille.
Appelez-moi.
Mais je vais venir.
Dans le bain déjà, dès le début.
Non, moi j'ai du mal avec ça, mais je comprends très bien, parce que ma femme Evelyne, qui j'ai un peu donné des notions de connaissance du vin comme
ouais,
ça,
vous en
un bien aussi. Meilleur nez que le mien, parce que moi j'ai beaucoup fumé dans ma vie, donc
ça a été
oh bah oui, ça empêche beaucoup de choses. Je fume plus depuis presque 10 ans maintenant.
Et vous n'avez
donc
pas récupéré pour autant?
Ah si, oui. J'ai récupéré, mais elle est vraiment, elle est brillante quoi, elle est
d'accord,
forte.
Hein. D'accord.
Voilà, et elle est comme vous, de temps en temps, je pars jouer au théâtre, elle me dit débouche-moi quelque chose. Comme ça.
Est-ce qu'elle a la clé de la cave, ou est-ce que c'est vraiment votre univers, votre...
Non, mais il y a une cave.
Non, elle n'a pas la clé.
La clé de la cave, elle ne l'a pas.
Mais c'est dingue.
Non, parce que ça, c'est même pas dans le bouquin, mais
non.
Je me souviens très bien qu'on m'avait faire un très beau Saint-Julien dont je ne citerai pas le nom, puisqu'on ne peut pas faire de publicité sur votre antenne.
Hein. Ah ben ça dépend.
Léoville-Lascaz. Voilà. Léoville-Lascaz, 1982. Léoville-Lascaz est un très grand cru de Saint-Julien.
Décidément 82. Hein. Et 82, oui, 82. Oui, aussi, oui. Hein.
Ouais. 82 est un très grand millésime. Ouais. Et on me dit, ça me fait plaisir, je me fais très bien, merci, c'est très sympa. Je le pose en me disant, bon, on va le boire à un moment ou à un autre. Et je le pose sur la commode de la cuisine. Très bien. Et puis je me barre, je vais jouer au théâtre comme ça. Et la fille des Devlin est venue et j'arrive après le théâtre, je dis alors ça va, oui, oui. Oh dis donc, le petit vin là qui était là, alors, formidable.
Oh, alors, non.
Ah, dis donc, lui,
il faut en acheter. Attends, quel petit vin, de quoi tu me parles? Alors, il restait ça, enfin, il restait le dépôt. Moi, je dis merde, oh, sympa. Voilà. Ça donc, elle n'a pas la clé de la cave, mais elle boit tout ce qu'elle veut. Mais il y a une cave dans, une grande cave d'appartement. Dans qui est bien fournie, dans laquelle elle peut prendre évidemment naturellement ce qu'elle veut.
Et dans le goût,
même le 82.
Et dans le goût de ma vie de Pierre Arditi, il y a beaucoup de choses autour du vin qui donnent envie d'ailleurs, et pour aller plus loin, vous donnez même des adresses, vous donnez des conseils, vous donnez des adresses même de fromagers, des adresses de restaurateurs. Il y a vraiment des histoires humaines, et puis il y a des histoires aussi de théâtre, notamment avec Jean Poiret, cette scène-là.
On n'imagine pas Poiret comme ça, quoi, évidemment.
On le racontera tout à l'heure. Marcel Maréchal également, il y a eu quelques...
Oui, les dégustations chez Guigui. Quand je jouais Don Juan, oui.
Voilà, celle-là, elle est belle aussi.
Et puis on apprend des choses aussi sur l'accord mets vin,
oui.
Sur le foie gras par exemple, qui était, je crois, d'habitude plutôt servi en fin de repas, pour aller avec des vins un peu plus moelleux.
Oui, non, c'est-à-dire que c'est le foie gras, donc il peut être servi en début de repas. Ouais. Le problème, c'est que si on sert ça avec un grand sauterne, par exemple, on ne peut plus rien boire derrière parce que le palais est totalement envahi.
Non, et puis l'intelligence de dire, d'ailleurs, dans un repas, la progression, voilà.
C'est capital, bah oui.
Exactement. Sinon, bah ça tue le goût.
C'est assez précis, quoi.
On continue d'en parler parce qu'on s'est régalé à lire ce goût de ma vie. C'est publié chez Hugo Doc. Vous aussi, vous l'avez lu. La dernière fois que Pierre Arditi est venu dans cette émission, c'était avec
1754, c'était avec Michel. La création de la radio.
Voilà, c'était avec Michel Leeb, on parlait de compromis qui se joue toujours. Il nous a donné un scoop concernant sa carrière. Est-ce que vous vous souvenez de ce scoop? Est-ce que vous aviez écouté l'émission? Pour ceux qui n'étaient pas là. Quel était le scoop de sa carrière qu'il nous avait révélé?
C'est une première Michel... apparition. Ah, c'est pas un des films un peu olé, olé. Ouais, ouais, c'est ça.
Exactement. Tourné dans un film érotique.
Voilà.
Est-ce que vous en avez, est-ce que quelqu'un vous en a parlé après l'émission en disant, mais est-ce que oui. T'as raconté ça à la radio, est-ce que c'est vrai?
Oui, alors je faisais mais j'étais tout jeune, non, ça c'est dans Marie Tudor, réalisé par, ça n'a rien à voir.
Vous avez fait plusieurs films érotiques?
Non, Marie Tudor, c'est pas érotique, ça c'est paraît. une pièce de Victor Hugo, oui, malheureux.
Mais c'est pas Marie Tudor.
La culture de ce type est absolument totale.
Non, mais ça pourrait être un super titre.
Voilà, ce que j'ai fini par jouer d'ailleurs
Marie
après
Tudor,
au théâtre.
Marie Tudor, point d'interrogation.
Marie Tudor,
point d'interrogation. Non, c'est bon. Marie, tu vas bien.
Abel Gance, c'est Abel Gance qui avait tourné ça. C'était en deux parties pour la télévision. Abel Gance, qui était un très grand cinéaste. Alors, je faisais un page avec j'avais des cheveux comme ça, un peu comme ils sont là maintenant, trop longs. Mais là, à l'époque, c'était bien. Dans la fin du premier épisode, j'ouvrais une porte et je faisais rentrer Colette Berger. Et l'image se figeait sur moi.
Là, il n'y a aucune vulgarité quand on dit ça.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Non, je fais rentrer Colette.
Et à l'épisode suivant, on reprenait sur l'ouverture de la porte, toujours moi, et je refermais la porte et j'avais fini mon travail. J'avais eu envie, je me souviens, de voir comment travaillait Abel Gance, qui n'en avait d'ailleurs, lui, rien à battre, que je sois là ou pas. J'étais tout jeune et je commençais à peine à travailler.
Enfant, sur quel genou Pierre Arditi a-t-il sauté?
Melmondo,
quelqu'un de connu.
Melmondo.
Sarah Bernard.
Melmondo aussi.
Non.
Jean Cocteau.
Non, non. Non, bah non.
Louis Jouvet.
Non, là c'est malsain.
Jean Marais.
Non, arrête.
Ce type est lamentable.
Jouvet.
Non.
Jouvet.
Une personnalité, une personne, un talent, un artiste qui adorait les jeux de mots. Je peux pas vous aider.
Raymond DeVos.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Raymond DeVos.
Alors, comment Raymond DeVos se retrouve avec vous enfin?
Raymond DeVos se retrouve.
Vous étiez la mascotte de l'établissement des Trois Baudets, c'est ça?
C'est pas la mascotte, c'est le fondateur des Trois Baudets, qui était Jacques Canetti, était le cousin de mon père. Donc,
qui avait une maison, qui était directeur artistique de maison de disques, hein, c'est ça?
Oui, il était directeur artistique de Philips, je crois.
Oui, Philips.
C'est ça. Et il a fondé les Trois Baudets, qui était un cabaret petit par la taille et immense par ceux qui s'y sont produits.
Oui, bien sûr.
Entre autres, mais moi j'ai vu, moi qui vous parle, j'ai vu enfant, mais j'ai vu débuter Jacques Brel, Gainsbourg, Béart, les premiers spectacles d'Yves Robert avec Rosy Vart, La Rose Rouge. Je me souviens de Gainsbourg qui était, il avait des cheveux très très ras comme ça, avec ses grandes oreilles en chou-fleur. Il était d'une élégance folle. Ça me marque maintenant, parce qu'après, il était devenu comme ça, mais il était déjà extraordinaire, il chantait magnifiquement. Et il était, je me souviens, il était en costard gris, avec un col roulé gris perle, comme ça.
Très chic,
et
très,
des pompes en daim à bout pointu. Ça, c'était la mode à l'époque. Je me souviens de ça,
ou Béart
qui était tout en bleu ciel, comme ça.
Et la famille Canetti, c'est quand même quelque chose, parce qu'on parle de Jacques Canetti, mais il avait frères. L'un était grand médecin qui a découvert quelque chose d'important.
Georges Canetti, qui était physiologue et qui a une salle à son nom à l'Institut Pasteur.
C'est votre parrain?
C'était mon parrain, oui.
D'accord.
Il m'a en partie appris à être un homme.
C'est Elias, non, Georges.
Et Elias Canetti, qui est prix Nobel de littérature.
Les trois frères, c'est un truc.
Lui aussi, il m'a fait sauter sur les genoux. Il ressemblait au docteur Watson. Tintin, il avait des pantalons de golf.
Quand vous dites Pierre, il m'a appris à être un homme.
Mon parrain.
Oui. Ça veut dire quoi?
Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'apprend, un homme. Une femme est une femme. Elle n'a pas besoin de démontrer qu'elle l'est. Un homme a constamment besoin de démontrer. Il l'a fait voir ça, si t'es un homme, tout le temps, toujours. Il faut tout le temps démontrer aux autres que finalement on est un homme. Alors ça veut dire quoi être un homme?
Ça
dépend de ce qu'on vous en dit, de ce qu'on vous raconte là-dessus. Et mon parrain, assez tôt, je devais avoir 13-14 ans, m'a expliqué qu'être un homme, c'était comme ci, comme ça, qu'il fallait pas avoir peur de ceci, pas avoir peur du ridicule, que quand on a une opinion, il faut le dire. Voilà, c'est des souvenirs magnifiques.
Pierre n'a pas l'habitude de rester assis sans rien faire.
Non, de rester assis, si, sans rien faire, non.
Et pourtant, à quelle occasion a-t-il été bloqué, obligé de rester sur une petite chaise sans bouger?
Sur un téléphérique?
Non.
Dans un ascenseur?
C'est vrai que c'est important de ne pas descendre. Non, il était sur une chaise, il ne pouvait pas bouger.
Pour un rôle où j'ai quelqu'un handicapé?
C'est pas loin,
chez un dentiste.
Non.
C'est nul.
C'était un rôle, oui, enfin c'était...
Il soufflait.
Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait même pas se lever. Il pouvait même
pas...
Un accident.
Non.
Il jouait un cul-de-jatte? Il jouait un rôle un peu...
Une statue vivante?
Non.
Il était
avec nous ou pas?
Il était douanier.
Oh, arrête avec ça.
Pourquoi il ne pouvait pas bouger?
Pour
ne pas
faire de faux raccords dans une prise.
On a évoqué
une photographie.
Tout à l'heure, alors c'est pas loin, c'est de l'art. On a évoqué tout à l'heure.
Il posait.
Exactement.
Comment?
Poser.
Vous posiez pour votre papa.
Ah oui.
Sur une chaise. Impossible pour vous de bouger.
Impossible de bouger, oui.
Vous aviez quoi, 7-8 ans?
J'avais 7 ans, je crois. 7-8 ans, oui. Alors, il faisait un portrait de ma sœur et de moi. Ma sœur était assise à peu près confortablement, elle, d'ailleurs, le tableau existe. Et moi, je suis sur une chaise, mais en équilibre instable, c'est-à-dire comme ça. Je ne pouvais pas bouger. C'est-à-dire que dès que je faisais ça, ne bouge pas. Un monstre.
Il était autoritaire avec vous?
Oui,
non, ça n'empêche pas
l'amour. Non, il était merveilleux, c'était un homme magnifique. Mais enfin, il ne fallait pas que je bouge, parce que s'il y a des machins comme ça. Au bout de 2 heures ou 3 heures, un enfant de 7 ans,
c'est impossible.
Et je lui dis, je peux voir? Il me dit, oui, mais t'approches pas trop, je ne pouvais pas approcher des toiles, c'était... Et alors, regardez, donc il avait commencé à faire ça au fusain. Donc évidemment, c'était une espèce d'entre-là.
Oui, c'était grossi.
De près de signes cannibalistiques, de trucs comme ça. Mais je me suis fait chier pendant 3 ou 4 heures à être comme ça pour ne même pas reconnaître mon visage. Et d'ailleurs, quand la toile était peinte, qui est très belle, elle est chez moi. Hein, et il y a ma mère qui est dans un fond comme ça. Et il y a ma silhouette d'enfant et mon visage. Il n'y a pas de visage. C'est-à-dire que c'est une chose complètement floue ici. Il voulait que ça soit comme ça. Donc je l'ai haï, évidemment. On ne pouvait pas, nous, ma sœur et moi, approcher d'un de ces tableaux à moins de 3 mètres. Non, ne bouge pas.
De peur de l'abîmer,
donc oui, parce que bon voilà. Et puis un jour, beaucoup plus tard, je suis rentré. Mon fils était donc son petit-fils, et il était dans ses bras, et il avait un pinceau dans la main, et il peignait sur une des toiles de mon père.
Jaloux.
Non, c'est pas ça. Il peignait sur une toile faite par mon père, ma fille. Mais tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule, ça va pas, non? Il dit, oui, mais c'est rien. Vous commencez rien, tu nous as jamais. Oui, mais c'est rien, je vais gratter, puis je recommencerai, c'est pas grave.
Tous les grands-parents autorisent aux petits-enfants ce qu'ils interdisaient à leurs enfants.
On était fous, Catherine.
Évidemment. Quelle est la nouvelle passion de Pierre Arditi? Il en parle un tout petit peu.
Le
crossfit?
Non.
Le karaté?
Non.
Le crossfit. C'est bon, ça.
L'Ironman?
Attends, il en parle un peu dans le livre.
Le saut à l'élastique?
Non. Non, c'est en rapport évidemment avec
le fait de cultiver, le fait d'avoir des vignes à soi, d'être propriétaire, de fabriquer son propre vin, d'avoir son cru, d'avoir
une collection de vins.
Non, mais c'est pas loin.
Collection des tonneaux.
Non.
La cuisine.
Non.
Production.
Non, mais si,
t'as dit le fait de cultiver. Oui. Bah donc,
il y a le jardinage.
Vigneron. Qui a dit ça? La main verte, il va avoir la main verte.
Jardinage, exactement. Le jardin.
Le jardin. J'ai haï la campagne pendant 40 ans.
C'est ce que vous dites dans le livre.
Je l'ai haï. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé une époque très lointaine où, petit, mon père et ma mère nous avaient mis chez des gens aimables, d'ailleurs, parce que lui n'était pas là. Justement, il travaillait aux Trois Baudets, donc il n'était pas là. Et ma mère faisait de la couture pour faire bouillir la marmite. Et donc, c'était compliqué, quoi, de nous avoir des petits-enfants comme ça. Donc, on nous a mis à l'époque, ce qui devait être à 10 ou 12 kilomètres de Paris, mais enfin, à l'époque, c'est vraiment en 50, c'était la rase campagne.
C'était la punition.
En plein hiver.
Ouais.
Sans maman, sans papa, sans maman. On est tous les deux, on était comme deux petits pingouins, désespérés là quand la nuit arrivait. En plus, c'était l'hiver, il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien. C'était une horreur. Pendant 40 ans, je n'ai pas pu aller à la campagne, ça me foutait des plaques. Et puis un jour, quand même, je me suis dit, mais quand même, j'étais dans un endroit très beau, tout d'un coup, la nature reprenait ses droits et elle faisait un pied de nez à la mort apparente qui était la sienne, et puis elle recommençait à représenter la vie, puisqu'elle poussait. Je suis con, moi, c'est vachement bien. Et maintenant, je suis comme un fou avec ça, et j'aime les jardins. Alors, je suis pas certain d'avoir la main verte, mais je pense qu'il y a des gens qui font ça et qui très bien.
On retrouve cet amour pour la nature, le jardin, et donc ce que la terre nous apporte, en l'occurrence ce vin. Et puis ces histoires humaines, ces partages. Il y a des anecdotes aussi extrêmement drôles, enfin drôles quand on la lit, peut-être pas drôles à vivre pour vous. Je repense à ce magnum, double magnum au Brion 82. Grand moment de solitude dans cette fameuse cave dont seul lui a la clé.
Non, mais elle vient, pour exagérer, le panthéonite.
Mais sous surveillance.
Non, mais le sentiment, c'est... Mais il a raison, en plus. Le sentiment, c'est que cette cave, c'est à la fois une espèce de coffre-fort, c'est une espèce de musée.
Enfin, coffre-fort, c'est une bibliothèque. Enfin, c'est comme une bibliothèque précieuse.
Ou un musée aussi, c'est-à-dire que...
Non, musée, non.
Il y a des dates...
Non, c'est fait pour être bu, le vin. C'est pas fait pour être regardé, hein. Non, non. Et pourtant, il y a des gens qui collectionnent des vins et qui ne les boivent jamais. Alors ça, ils font comme ils veulent, c'est totalement idiot. Je veux dire que c'est un bonheur suprême de partager un bon flacon avec des gens qu'on aime.
Vous racontez que de temps en temps, vous descendez
pour les regarder, les retourner, regarder une étiquette, mais est-ce qu'il est bien? Tiens, peut-être il faudra en goûter une bouteille pour voir si ça avance bien, si c'est pas. Alors j'avais fait faire des casiers comme ça pour des magnums. Mm-hmm. Donc je range ça, putain. Je prends un peu de recul sur mon escabeau et j'entends un sifflement et je me retourne en me filant un tour de rein, une horreur, et je vois passer une fusée qui descend devant moi, mais comme ça. Hein.
Un double magnum.
Voilà, donc je me file un tour de rein pour essayer de
rattraper.
Hop, il se fracasse au sol.
Et ce qui est génial dans le livre, c'est que vous dites, j'hésite entre lécher le vin,
c'est pas possible, un truc comme ça, c'est rarissime. C'est impossible, il n'y en avait même plus à Aubry, c'est des trucs pas possibles.
Faut en sauver, quoi.
Hein?
Sauter au sol et en sauver.
Voilà, ou alors on se boxe, on dirait vraiment un crétin.
Ou alors vous dites aussi, prendre une serpillière.
Oui, prendre une serpillière, la tordre et puis le boire comme un bon. Évidemment, non. Voilà, je me suis dit, en plus, c'est épouvantable. Dans 20 minutes, ça va puer la vinasse dans la cave. C'est une horreur. Et puis, évidemment, au bout de 20 minutes, non seulement ça ne puait pas la vinasse.
Non, mais au contraire.
Mais ça a été décanté au forceps.
Et, ouais.
Et tout d'un coup, ça a été des effluves de tous les parfums d'Arabie magnifiques que contenait ce magnifique magnum, que je n'ai pas bu mais que j'ai senti, mais j'en ai encore un autre.
Il y en a un autre qui reste, voilà. Le goût de ma vie, c'est publié chez Hugo Doc, c'est signé Pierre Arditi, avec beaucoup, beaucoup d'anecdotes. On reparlera celle de Jean Poiret aussi. D'abord, c'est François. Il a des scoops à vous révéler. François.
Salut les amis, salut Nagui et coucou Pierrot. Pierrot, tu viens si souvent, dans la bande originale que je me permets ce genre de familiarité. En échange, tu peux m'appeler Franfran. Une fois de plus, ta venue ici a suscité l'enthousiasme de toute la bande. Total consensus, à commencer par GNB, notre rédac-chef, qui s'est adressé en ces termes à Nagui. Oh, mon maître, Pierre Arditi, page 176 de son livre conseille « Buvez le champagne dans des verres à vin et essayez un beau champagne avec un camembert, c'est divin, ou mieux, avec un coulommier !» Fin de citation.
Oui.
Aucun invité maître n'avait jamais cité ma ville natale dans cette émission. Ça mérite récompense. Leïla Kaddour, quant à elle, a apprécié ce que tu dis des femmes, page 153. Elle prouve que la moitié de l'humanité a son mot à dire quand il est question d'honorer Bacchus. Dieu sait si Leïla ne cesse d'honorer Bacchus. Marina Rollman a adoré le chapitre « Les vins suisses sont sans sas », page 227. Enfin, Alexis Le Rossignol et Daniel Morin, quand je les ai aperçus, ainsi à la terrasse d'une brasserie voisine, vidaient verre sur verre de gros rouge, cul sec, non sans trinquer à chaque fois à ta santé, Pierrot, en répétant d'une voix de plus en plus pâteuse une des phrases clés de ton livre, page 57. Le vin, je le respecte, et ma meilleure manière de le lui prouver, c'est de le boire. Oui, Pierrot, tu es le bienvenu pour ce beau livre aussi passionnant que goulayant, qui m'a fait découvrir l'adjectif empyreumatique, arôme du chenin blanc, qui exalte ce livre, qui exalte l'usage sans déraison de vins loyaux qui transfigurent notre quotidien et qui bien souvent commandent l'art concomitant du fourneau. Ça c'est tapé ce que je viens de dire. Autre chose que les commentaires de François-Régis Gaudry, animateur de l'émission On va déguster sur France Inter. Dont Nagui, Nagui, quoi, tu me disais tout à l'heure, quand il parle pinard, ce mec me saoule. Ajoutant même, je te cite toujours Nagui, ceci dit, On va déguster, il pouvait pas trouver titre plus approprié. Quand il m'arrive, en me trompant de station, d'écouter cette émission, qu'est-ce que je déguste? Mais je vous laisse Nagui, car vous aurez l'occasion de redire tout ça à François-Régis dans quelques minutes. Exactement. Bonne émission.
Il sera là tout à l'heure, François-Régis. Merci.
Nagui, la bande originale.
Vous êtes bien dans la bande originale avec Pierre Arditi qui est notre invité pour démarrer 2020. Voici Jeep Jeep et c'est Arnaud.
Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimé de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip, chip, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées. Une nouvelle idée. Le radeau qui m'amuse, elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux. Chip chip, c'est fini.
Chip chip, c'est fini.
café.
Jeep Jeep, c'est Arnaud, un amoureux de la vie et des bonnes choses, dans la bande originale de Pierre Arditi, qui est justement avec nous jusqu'à midi pour nous parler de son goût de ma vie, son nouveau livre. Nous fêtons ça avec son vin et son appétit. Oui, cette anecdote avec Jean Poiré, parce que vous la racontez dans la dans l'idée aussi du partage, du rapport humain. Jean Poiré qui était aussi un connaisseur de et un amateur de vin.
Oui, très 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 amateur. Alors on était liés, c'est lié même. Hein. Et vous, on allait souvent dîner chez lui avec sa femme Caroline Sellier. Bon, alors il m'a fait entre autres découvrir le Saumur Champigny. Que j'avais d'ailleurs déjà découvert à la cave Legrand et où j'ai connu la fille de la maison, Francine Legrand, et même Lucien, qui était le grand-père, enfin, et qui était le fondateur même de la cave Legrand. Et le Saumur Champigny était un vin très à la mode à l'époque. C'était un vin des acteurs. On demandait ou du Bougie Rouge ou du Saumur Champigny. C'était ça les vins un peu, les vins des acteurs
branchés.
C'était un peu branchou. Ouais. Alors j'en ai bu des très beaux et des très bons et on était très liés comme ça. Et puis un jour on va voir une pièce qu'il avait écrite qui s'appelle Les Clients.
Edouard VII,
voilà. Il y avait donc, qu'avait monté Murat d'ailleurs.
Il y avait donc Murat, Evelyn Bouygues, vous, Caroline Sellier, vous attendiez dans le haut foyer.
On était dans le petit foyer qui précède les deux loges des vedettes, Françoise Fabian et Jean, et on attend, et on discute, on attend qu'ils viennent, qu'ils sortent, et puis on va aller dîner. Il était merveilleux, hein, bon. La pièce était bizarre parce qu'elle était un peu plus noire que d'habitude. Donc le public était toujours un peu paumé dans ces cas-là parce qu'ils attendent Poiret dans Joyeuse Pâques et ils voient arriver Poiret dans quelque chose de plus noir.
Mais vous l'aviez trouvé formidable.
Il était merveilleux, absolument merveilleux. On attend, puis au bout d'un moment, 20 minutes, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il fout ? Donc Caroline dit, bon, j'y vais. Et il était assis dans sa loge, habillé, avec une casquette qui ressemblait à un béret d'ailleurs, sanglé dans l'imperméable, attendant et pratiquement en larmes. Il dit, mais Jean, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, oui, oh, ça va, c'est pas la peine. Hein. Vous ne venez pas parce que vous devez trouver que je suis à chier, vous n'aimez pas la pièce, vous n'aimez pas ce que je fais, un truc comme ça.
Il pensait que vous n'aviez pas aimé la pièce.
Il pensait qu'on n'avait pas aimé, donc on ne venait pas dans la loge.
Et il était pratiquement en larmes, c'est incroyable.
Mais pratiquement en larmes, Jean Poiré. Donc je n'avais jamais imaginé. Avec cette fragilité-là, en réalité, il était extrêmement fragile.
J'imagine que depuis ce jour-là,
c'est-à-dire que moi, je l'ai revu dans Joyeuse Pâques où il était génial, que j'ai joué moi 10 ans.
Vous étiez le premier à frapper à la porte de sa loge.
Il n'était pas déshabillé. Jean.
Monté sur scène avant la fin du spectacle.
C'était terrible.
On se rend pas compte de ce qu'un acteur attend ou pas. Mais on veut pas gêner non plus. On veut pas non plus se précipiter dans un moment.
Formidable. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça gênerait un acteur quand on vient lui dire qu'il est formidable? Ça peut éventuellement gêner un acteur quand on lui dit « Écoute, j'ai pas beaucoup aimé le spectacle, je te trouve pas très bon. »
Non, mais
il est quand même assez rare quand on dit « Bravo !» et puis on sort.
Il se change, voilà. Il se douche, que je sais. Enfin, je sais pas, on n'est pas obligé d'être collé.
Non, on ne se change rien du tout. On attend qu'une seule chose, c'est vous.
Okay.
Donc on est complètement.
C'est bon à savoir parce
fragilisé.
Que des fois on hésite, on a peur de déranger.
Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Et laisser un temps pour redescendre, surtout plus la pièce est forte et plus on se dit il a besoin d'un moment tout seul.
Surtout quand on n'est pas amis intimes non plus, tu vois, quand on est juste là, on est des gens de médias.
Et qu'on l'aime pas trop à la base.
Est-ce qu'on.
Ce type est immonde.
Ce type est immonde, il s'appelle Alexis Le Rossignol. Le voici.
Allez, débrouille-toi.
Bonjour.
Ça va,
vous allez bien?
Ouais.
Avant de commencer, j'ai l'impression qu'il se passe un truc bizarre dans les coulisses de l'émission et que je suis pas au courant.
Ah.
Quoi, tout le monde a été augmenté sauf moi ? Non. Pire que ça, la semaine dernière, j'ai vu Marina Rollman à la télévision et j'ai entendu ça.
Mardi et mercredi sur la scène du Théâtre de l'Œuvre dans un spectacle drôle et chaque vendredi sur France Inter.
Là, je me suis dit, quoi, Marina, tous les vendredis? Je savais qu'aujourd'hui, elle remplaçait Fred, mais les vendredis suivants, elle va remplacer qui? Fred sera là et les autres sont syndiqués. Ça sent pas bon. Là, je me suis dit, Alex, t'affoles pas, prends ton millepertuis. Mouloud s'est trompé, ça arrive. 3 jours plus tard, qu'est-ce que je vois dans C'est à vous? L'émission où un chef prépare un plat que personne ne mange? Encore Marina. Et j'entends ça.
Tous les vendredis, dans la bande originale de Nagui sur France Inter. Exactement.
Là, je me dis, fois, ça va, 2 fois, ça fait beaucoup. Là, vous rigolez. Je sais comment ça se passe. Hein. Les cocus, c'est toujours les derniers informés. Hein. Quand un voisin te dit, dites donc, votre femme commande beaucoup de pizza quand vous n'êtes pas là, au début, tu comprends pas toujours que c'est une métaphore. Tu vois.
Il y a l'explication, là ou...
En fait, je n'ose pas contredire les gens en direct.
Ah, mais du coup, je dis, ah, ouais. Non, mais surtout, qui leur donne l'information que
c'est une excellente question, je ne sais pas. Ouais, les médias.
L'orange.
Bon, sinon, l'autre jour, j'avais une petite faim de galette bretonne compote de pommes. Vous connaissez?
Ah, c'est un dessert. Quoi.
Ouais.
Allez, Marina.
On verra ton papier tout à l'heure.
Galette bretonne.
Non.
Compote de pommes.
Galette bretonne, les petites galettes bretonnes. Compote de pommes. C'est un dessert. C'est assez simple. Oui. Tu vas au supermarché, t'achètes un pot de compote, t'achètes des galettes bretonnes, tu ouvres ton pot de compote, tu ouvres tes galettes bretonnes et tu les manges ensemble. Voilà. Alors, au niveau de la technique de dégustation, il y a deux écoles. Tu peux soit tremper, soit alterner compote et galette. Moi, je trempe, mais il faut essayer les deux et choisir en fonction de sa personnalité. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que dans votre entourage, on a l'habitude d'alterner.
On attend lentement la chute.
Il faut s'interdire de tremper.
C'est consternant. Absolument consternant. Sur le service public, c'est la chute, la fin du service public.
Attendez, le papier n'est pas fini.
Mais bah, je vois bien, oui. Ça n'en finit plus.
Tu peux faire la même recette avec des palais bretons.
Oh putain, j'aime bien.
Ou des roux d'or, vous connaissez,
ah, pour un petit goût de citron.
Ah, ouais, c'est ouais. Bon. Ça donne un peu de peps.
Ou des goulibeurs.
Au dessert, quoi. Il y a des compotes allégées en sucre aussi. Mais j'ai jamais essayé parce que gustativement, j'ai toujours peur que quand les fabricants retirent du sucre, ils retirent aussi un peu de goût au passage. Parce qu'on dit souvent, il est bon ce fruit, il est bien sucré. Anecdote au sujet.
Quand on commence un truc comme ça, on se demande si on verra les siens un jour. C'est long.
Non, mais les miens, ils sont fidèles, ils me connaissent. Hier matin, j'ai voulu acheter des poires. Je suis allé au marché, le vendeur m'a dit, vous voulez de la conférence ou de la William?
Ah oui.
Moi, j'en savais rien, question poire, je suis paumé. On le voit plus beaucoup, Raymond DeVos, hein.
Instinctivement, ah, poire, je suis paumé.
Souvent copié, mais jamais égalé. Hein.
Oui.
Instinctivement, je me suis dit, à son nom, la poire conférence, ça a l'air d'être une poire un peu sérieuse. Mais après, c'est un jugement de valeur. Donc, je lui ai demandé, c'est quoi la différence entre les deux? Il m'a répondu, la conférence est moins fruitée. Ça m'a surpris comme réponse, en parlant d'un fruit. Dans le doute, je lui ai dit, ça reste un fruit quand même, non? Il m'a dit, bah oui, c'est une poire, quoi. Je lui ai dit, ça va, c'est pas la peine de s'énerver, hein, je veux juste un fruit qui tire pas vers le légume, quoi. Étant donné que j'ai déjà mes légumes. Ça peut se comprendre, non? Là, il me dit, si ça peut vous aider, en général, les gens qui ont déjà leurs légumes, ils prennent la William pour équilibrer.
Williams.
Oui. Vous croyez qu'il aurait pas pu le dire plus tôt, au lieu de m'embrouiller, là? On a perdu un temps. Franchement, je ne vous souhaite pas de vivre ce moment, ni qu'une personne vous le raconte. Hein. Parce que c'est long. Hein. C'est comme les gens qui te disent « Faut que je te raconte un truc incroyable ». Il y a des gens qui te disent ça.
C'est mort.
Moi, je leur dis souvent « Commence par la fin, on ne sait jamais ». Voilà. Allez, bonne journée, messieurs.
Excellent signal. La bande originale,
Nagui, sur France Inter.
C'est effrayant.
Et il est sur scène.
Non, il ne peut pas.
Jeudi, vendredi, samedi, au point virgule à 19h.
Exactement, mais personne ne vient me voir après le spectacle en général.
J'aimerais des goulibeurs.
Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas te déranger. Tu ils pensent que tu dois avoir besoin d'une phase de récupération. Effectivement, quand on avale ça, c'est quand même pas. C'est pas de la tarte.
Et alors, tiens, anecdote encore dans le goût de ma vie où vous parlez du vin, évidemment, du plaisir de la vie, de l'alcool en général, et vous évoquez Bud Powell.
Ce génie.
Où vous disiez, vous aviez peur en le voyant sur scène qu'il allait pas tenir, tellement il est...
Quoi ? Il y avait un endroit très formidable qui s'appelait le Blue Note, qui existe toujours d'ailleurs à New York, qui était un endroit, quand j'étais très jeune, où tous les grands jazzmen américains passaient.
C'est l'enregistrement au Blue Note que l'on a là, de Bud Powell.
Et donc, on avait quoi, 16-17 ans, et on emmenait nos petites amies, parce que c'était chic d'aimer le jazz, à l'époque c'était du jazz funk, hein, et que celui que je préfère d'ailleurs. Et alors, pour 15 balles, on avait un gin fizz ou un coca, un whisky coca, comme ça, et puis on écoutait ça. Alors, moi, j'ai vu Johnny Griffin, Lou Bennett, Kelly Clark, Art Blakey, Jazz Messenger, enfin vraiment des côtés d'énormes pointures. Et là, il y avait, en l'occurrence, ce jour-là, Bud Powell. Massif comme ça, qui était mais dans un état de décomposition avancée. Il avait dû entendre
le papier d'Alexis Le Rossignol.
Et donc ça l'avait flingué, ça l'avait complètement flingué. Et alors on s'est regardé, on se disait, mais lui, il va pas jouer là.
Il va pas tenir.
Il va pas jouer.
Mais il était torché, bourré.
À mon avis, il était bourré et à mon avis, un petit peu camé avec.
D'accord.
Voilà. Okay. Je pense, hein, avec des yeux comme ça, la barbe. il se lève, il vise le piano.
Ah ouais, on est là, ouais.
Son piano, il dit là, c'est mort.
Il vise
et
le piano.
On entend ça. Comme si ça n'avait pas lieu. Parce que c'était sa vie. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui regonflait son énergie, la musique. Et il jouait ça, comme ça. Magnifique.
La bande originale dans la vie de Pierre Arditi, la musique dans la vie, on va partir dans les années 40-44. Et quand on vous a demandé quelle musique pouvait aller avec cette période, vous avez dit
ben en le 44, bruit, le bruit des balles allemandes. Le 1er décembre 1944, et sans doute la première néfaste musique que j'ai dû entendre, c'était ça, dans le monde de ma mère. C'est-à-dire qu'on tirait encore sur les toits de Paris, en 44, et donc j'ai dû...
Ça file la chair de poule, vous êtes le premier, nous sommes à la sixième saison de cette bande originale,
oui.
Et vous êtes le premier
oui.
À nous demander un son, une ambiance, et en plus un son oui. qui risse les poils et qui
bah, nous renvoie aux mauvaises... Mais ouais. je dis ça parce que j'avais quelques mois d'existence dans le ventre de ma mère, mais m'a dit quand tu étais dans mon ventre, on tirait sur les toits de Paris. C'est tout.
Alors on dit souvent que les bébés ressentent les angoisses des mamans quand ils sont dans le ventre de leur mère. Est-ce que de le réentendre ou de l'évoquer, ça fait naître en vous?
Oui, j'ai du mal avec ça. Je supporte pas le bruit des armes à feu. Je supporte pas le bruit de la guerre, quoi. Je supporte pas ça du tout. D'ailleurs, il y a chaque fois que ça repasse, et France 2 a fait comme ça la guerre de 14, la guerre de 40, comme ça. Et maintenant, c'est même colorisé.
Ouais.
Donc, c'est terrible parce que ça ressemble à un spectacle comme ça.
Oui, mais c'est important.
Mais c'est pas un spectacle.
C'est un devoir de mémoire.
Et quand
ouais,
on
ça.
Voit ça, ouais. Je peux pas croire que ça ait eu lieu. Alors, on me demandait il y a pas longtemps, alors les Américains font ceci, Trump fait cela. Oui, c'est bon. D'accord, je suis pas emballé par Donald Trump, mais je ne peux pas m'empêcher quand on parle des Américains de penser à des gamins qui sont venus se faire trouer la peau pour qu'on puisse vivre normalement. Mmh. Et c'était vraiment des gamins, des mecs qui avaient 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui se sont fait flinguer quand ils ont débarqué ici. Il y a le magnifique film de... Ah, voilà un nom qui va m'échapper, Steven Spielberg, sur Il faut sauver le
soldat
Ryan. Toute la première partie, ça n'a jamais été filmé comme ça, la guerre. Où tous les types tombent, ils ont même pas mis un pied hors de la barge de débarquement, ils sont morts. C'est absolument terrifiant. Et après, on voit des images comme ça qui sont pas du cinéma. C'est la vérité. Mmh. C'est-à-dire que ces gosses sont sortis de pas du Texas, du Minnesota, un truc comme ça. Ils sont sortis et dans la seconde qui a suivi, ils sont morts.
Oui.
Je ne peux pas regarder. Ça me dévaste.
Non mais à la fin, pardon. Évidemment, on est dévasté par la mort de ces soldats et
de tous les soldats
cela, hein. Et de se dire aussi que sans ces soldats.
Mais sans ça,
nous ne serions pas libres, sans doute. Oui. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal aussi de se dire, est-ce que par exemple la France doit elle aussi, pour sauver des vies ou des victimes de dictature, doit-elle intervenir ou
bah,
pas,
elle l'a fait, elle l'a déjà fait,
péril,
c'est son honneur.
De la vie, voilà.
C'est son honneur.
Non mais ce sont des vraies questions, donc c'est...
Elle l'a fait.
Surtout d'actualité.
Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait d'actualité, et la position française aujourd'hui, elle est tout à fait, elle est parfaitement respectable, et ils tentent de faire le maximum pour que cette horreur qui est en train de se passer en Turquie,
c'est vrai.
Voilà. Bon, mais qu'est-ce que je vous disais?
Et en quoi, Pierre Arditi, on voit encore aujourd'hui dans votre vie au quotidien que vous êtes un enfant de la guerre? Ça m'intéresse.
Bah, je suis un enfant de l'après-guerre.
Ouais,
j'ai pas un enfant de la guerre.
Quand même.
Je suis né en décembre 44, donc j'ai commencé à avoir des souvenirs probablement en 48 ou en 49, hein, 3-4 ans.
Oui, après, il y a ceux dont on hérite.
Je suis un enfant qui a mis, encore une fois, dans ma mémoire personnelle et dans je dis sûrement pas tout le temps ce mot qui est un mot chrétien, mais bon, de mon âme, je peux pas employer un autre, il y a cette espèce de... Alors, il y a un goût de ma vie, là aussi, sur lequel je n'ai pas écrit, d'ailleurs, mais auquel je suis férocement attaché, et ça continue de à la fois de m'émerveiller, de m'éblouir, parce que quand je jetais des soldats de plomb du quatrième étage de la rue de la Cerisaie sur les gens qui passaient en dessous, les flics sont montés pour dire à ma mère, madame, votre fils, bon. Et puis cette manière de vivre qui était vraiment celle de l'après-guerre, où tout semblait à la fois étrange, dévasté, et en même temps, naissant.
On redécouvrait la vie.
Et on redécouvrait l'espoir. Voilà. Et puis.
Ça donne quoi? Ça donne envie de profiter davantage de la vie?
Ça donne envie de se dire qu'à un moment donné. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase que je fais mienne. Les Français sont des gens qui vivent dans un paradis et qui pensent chaque jour qu'ils vivent dans un enfer. Voilà. Eh bien, non, ils vivent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il y a des difficultés, il y en a, dans un paradis. Cette vie-là, ici, c'est un. Il n'y a qu'à regarder ailleurs comment ça se passe. C'est un paradis et ça n'a pas de prix.
En 1963, vous écoutiez. Et ce titre en particulier, c'est le premier 45 tours.
C'est le premier 45 tours et c'est pas en 63, c'est avant.
En 59.
Voilà. Ouais. Moi, je l'ai écouté en 1959 et j'avais donc 14 ans. Et ma sœur était allée chez dans une famille anglaise pour perfectionner son anglais, qu'elle n'a jamais perfectionné d'ailleurs, comme toujours dans ces cas-là. Et elle est revenue en se moquant de cette famille anglaise qui était très aimable et très sympathique, mais c'était les débuts de la mini Austin.
Oui.
Donc le mec,
très british tout ça.
Sa voiture, c'était comme une maîtresse, donc il la stickait comme ça, ça la faire et lui, ils sont fous avec leur bagnole. Et le premier 45 tours des Beatles que tout le monde écoutait à l'époque, en 59. Et c'est vrai que ça nous a... Bah, ça a complètement changé de ce qu'on écoutait avant.
Mais alors, quoi, comment elle a pu vous le rapporter en 59, vu qu'il est sorti en 62, le disque?
Non, c'est ça?
Bah oui,
c'est sorti en 62. C'est vous qui me dites 59. 62?
Ah d'accord, non, 62.
C'est 62?
Ouais, 62.
Bon, bah, c'est 62. Okay. Ne me demandez pas des dates trop précises. Je m'en fous. Donc, j'étais un petit peu plus vieux. J'avais quoi, alors, 17 ans?
C'est ça?
Ouais. 17 ans. Bon, bah, c'est possible. J'avais 17 ans. Je me voyais un peu moins vieux que ça.
Et selon Wikipédia, vous êtes né en 47. Alors,
est-ce qu'on peut expliquer à ce type?
Et à cette époque, Pierre Arditi, c'est votre premier cours de théâtre. En fait, le théâtre, c'est pas complètement absent de votre vie, puisque votre père vous emmenait déjà beaucoup au théâtre. Il était peintre, il réalisait des décors de théâtre aussi. Vous alliez au moins au théâtre une fois par semaine, je crois.
Ouais. C'était vraiment. À la Comédie Française, beaucoup.
Pour voir Robert Hirsch.
Oui, pour voir entre autres Robert Hirsch, qui était notre idole. Et ça, c'était plus tôt, hein. On y allait, on n'avait pas.
Quand vous étiez 7-8 ans, oui.
On a vu Robert Hirsch dans Sosie d'Amphitryon de Molière. Où il était déjà tout tremblait parce qu'il avait peur de tout. Il avait déjà créé, sans le savoir, le célèbre Bouzin du fil à la patte de la célèbre pièce de Feydeau où il a fait un triomphe qui traverse l'histoire du théâtre.
Et 63, c'est votre sœur Catherine qui vous entraîne au cours de Tania Balachova.
Oui, parce que je ne me faisais pas confiance. Et ma sœur, elle a voulu être actrice. Elle avait 15 ans. Elle a commencé à jouer. Elle avait 15 ans. Et moi, je me disais, non, je suis tard. J'ai une tête d'imbécile. J'ai pas de voix. C'est pas pour moi. Je le ferai pas. Et là, je me suis allé dans une compagnie d'assurance pour être celui par lequel l'argent entrerait dans la maison, dans la famille, famille qui n'avait pas d'argent. Elle avait tout le reste. La culture, l'intelligence, le machin, mon père, ma mère. Ça, c'est merveilleux. Pas de fric. Donc, je me suis dit, c'est moi qui ramènerait ça. Il y aura une DS19, il y aura une résidence de campagne, comme tous mes petits copains partaient. J'ai tenu un an, puis je me suis emmerdé, puis ils m'ont traîné par la peau du cul au cours d'un dramatique, ma sœur, mais mon père aussi. Qui quand même était très atypique à l'époque, parce qu'à l'époque, franchement, les parents qui avaient envie que leurs enfants soient des acteurs, il y en avait vraiment très peu. Ça a beaucoup changé depuis, parce que maintenant, il faut absolument être vu à la télé, donc c'est très bien que les enfants aillent essayent d'être des acteurs, ce qu'ils sont rarement d'ailleurs.
C'est pas tous les parents qui disent ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté de vouer du théâtre?
Toujours. D'ailleurs, j'ai failli arrêter plusieurs fois, et j'ai vu une fois un portrait d'un acteur que j'adorais, qui s'appelait Bernard Noël. Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien, évidemment. Je suis vraiment un vieillard, merde. Eh bien, Bernard Noël était un acteur magnifique, c'était le grand copain de Claude Rich. Je l'ai découvert dans Victor ou les enfants au pouvoir, qui joue au Théâtre de l'Ambigu, théâtre qui n'existe plus, qui a été remplacé par un parking en béton absolument dégueulasse, alors que c'était le plus beau théâtre à l'italienne de Paris, qui n'avait pas été protégé. Bernard Noël. Voilà. Vidocq, ça vous dit quelque chose?
Absolument, Vidocq.
Bernard Noël, entre autres, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il est dans Le Feu Follet de Louis Malle aussi. Et un jour, il commençait à être connu, et on l'interviewait, et il disait, mais alors, il disait, non, ça a été très dur, j'ai failli arrêter plusieurs fois, parce que je pensais que je n'y arriverais jamais. Et puis finalement, j'ai continué. J'ai entendu ça. Moi qui étais au bord de me dire, bon allez, ça marchera jamais, je m'arrête. Et grâce à Bernard Noël, ce qu'il n'a jamais su, eh bien, j'ai continué. au grand désarroi du public actuel.
Le goût de ma vie, c'est publié chez Hugo Doc, François-Régis Gaudry, dont on a dit beaucoup de mal autour de ce
Oui, et c'est bien comme ça, toujours. Parce que c'est très important nous de dire du mal de François-Régis Gaudry.
Nous a rejoint, vous animez François-Régis, et merci d'être là. On va déguster sur Inter le dimanche matin de 11 à 12. Vous tenez la chronique du marché également. Le samedi à 7h24, toujours sur Inter, vous présentez très très bon sur Paris Première. J'ai fait le tour?
Oui,
c'est bon. Et il y a le livre aussi en librairie.
Et il y a le livre en librairie, aux éditions Marabout. Est-ce que le vin tel qu'on parle, Pierre Arditi, et il parle de tous les vins, que ce soit d'ailleurs les rosés, les blancs, les rouges, les liqueurs, les champagnes, voilà, tout est vin. Mais on l'a entendu tout à l'heure, il y a des modes, il y a des tendances. Notamment, il redonne ses lettres de noblesse au rosé, je trouve, parce que le rosé est un peu décrié comme étant le vin que l'on boit au bord de la piscine.
Oui, bah, c'est beaucoup des vins de piscine, mais enfin, il y en a des bons.
Voilà, il y en a des bons. Est-ce qu'il y a des vins aujourd'hui, ceux qui se vendent le mieux, pas forcément évidemment les plus chers dans le monde entier, mais ceux qui ont un franc succès? Est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a une mode?
Oui, il y a évidemment des modes, et de tout temps il y en a eu. Pierre Arditi, dont j'ai beaucoup aimé le livre, parce que moi je venais pour dire du bien, hein, tout à fait naïvement, non, c'est un livre que j'ai vraiment lu cul-sec. Page 84, il évoque le Bordeaux bashing.
Ouais. Oui.
Vous savez, cette tendance qui a consisté quand même à dénigrer les Bordeaux. Aujourd'hui, vous allez au restaurant à Paris ou même en région, il n'y a plus un sommelier qui ose vous proposer du Bordeaux parce que... Alors, effectivement, ça peut être un peu fatigant de s'en prendre au Bordeaux. En même temps, il y a peut-être de bonnes raisons. On va pas forcément.
Il y en a eu des débats. Il y en a eu avec le goût par cœur.
Exactement.
Bon, mais, voilà. Mais enfin, bon, c'est pas une raison quand même.
Et puis il y a un phénomène spéculatif ça qui fait pas. Aussi que les vins de Bordeaux sont rejetés sur les marchés. Oui, quand même.
Ça va jusqu'au bashing ou c'est plutôt des personnes, des amis qui vous disent il y a pas que le Bordeaux dans la vie. Il faudrait
non,
aussi
plutôt,
aller
plutôt,
vers
c'est
le
plutôt
Bourgogne.
Cette idée que les Bordeaux se sont orientés vers un goût un peu standardisé. Alors effectivement, c'est en partie dû au goût de Robert Parker, qui a été le critique américain qui a fait la pluie et le beau temps sur les vins. Mais il est vrai que le Bordeaux, et en même temps c'est un peu justifié, moi il y a trois jours j'étais dans une table qui venait d'ouvrir, la table de Stéphanie Lequelec. C'est très bien, formidable.
Elle est bien Stéphanie Lequelec,
on ira ensemble.
Formidable.
Non, ouais. Vraiment bien, très très bonne technicienne, ouais. À mon avis c'est une des chefs qui aura un jour 3 étoiles. Vraiment super.
Elle en a deux là, non?
Elle en a deux, enfin elle en a pas encore deux parce qu'elle
en avait deux, elle est partie avec deux.
Absolument.
En tout cas, elle est très contente là de ce qui se passe.
Non, je disais juste que le sommelier me fait déguster à l'aveugle un vin, je mets mon nez dedans. Évidemment, on reconnaît le Bordeaux, mais pas dans son meilleur aspect. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une sensation de bois qui vous assaillait les narines. Et là, on était clairement dans un élevage en fût qui n'était pas très intégré dans l'équilibre du vin. Et d'ailleurs, le critique œnologique qui m'accompagnait, qui est Jérôme Gagnès, qui officie au micro, dont on va déguster le dimanche, me dit, ce vigneron, il s'est trompé de métier, il aurait dû être menuisier.
Non, mais
il y a une dérive des Bordeaux, un peu comme ça quand même. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents...
Il y en a plus beaucoup, hein, quand même. Hein. C'est passé de mode, hein, les vins boisés. Boisé.
En effet, mais il y a quand même encore parfois des goûts boisés assez présents.
Oui, enfin, c'est pas une raison. Il y a quand même, évidemment, ce qu'on croit, une grande variété
dans
le bordelais, mais pas seulement, bien sûr.
Alors, quelle est la mode, s'il y a une mode?
La mode, tout le monde aujourd'hui parle évidemment des vins bio et plutôt des vins dits naturels. Oui, alors, le vin naturel, il est pas encadré.
Biodynamique.
Ou biodynamique. Alors le vin naturel, c'est un peu la grande famille de ces vins qui globalement se passe d'un tran phytosanitaire. C'est-à-dire que quand vous buvez un vin naturel, vous êtes à peu près sûr d'avoir un jus exempt de traces de pesticides, etc. C'est quand même intéressant de se tourner vers ces vins-là.
Mais il y a quand même du sulfite ou pas?
Il y en a en général, mais à dose infinitésimale.
Parce qu'il paraît qu'il en faut.
Il en faut un tout petit peu. Alors il y a des vignerons vraiment un peu, on va pas dire intégristes, mais assez ayatolesques qui se passent totalement de soufre et parfois ça marche. Et puis parfois vous prenez un peu le risque. Vous ouvrez la bouteille, vous savez, vous le sentez, on dit que ça sent le foutre de lièvre, l'urine de renard.
C'est le grenier, ça renard, ça sent un peu la couverture de dessous de sel de cheval.
Vous voyez, vous avez... Ça sent plus d'avoir
envie de boire ça.
Il y a des arômes un peu déviants qui peuvent être un peu gênants. Le problème, c'est que le sang soufre, il peut être pratiqué par des vignerons, à condition évidemment que la matière première soit des raisins d'un état sanitaire parfait. Il faut être un orfèvre de l'œnologie pour maîtriser les vins naturels sans aucun produit chimique et sans SO2, sans soufre. Mais ces vins naturels, il est vrai qu'ils font plutôt du bien pour la planète. Ils renouent. C'est aussi la marque d'une relation charnelle et à la fois spirituelle avec le terroir. C'est en général des artisans qui ont des convictions et qui tournent le dos à une certaine viticulture un peu plus intensive ou semi-industrielle qui est aussi très présente dans le paysage. Faut quand même rappeler, Nagui, que la viticulture est le secteur agricole en France qui est le plus gourmand en produits phytosanitaires. Ça, c'est une réalité. Il y a quand même un paradoxe entre la vision
très belle d'ailleurs que Pierre Arditi décrit du vin, qui est cette espèce de relation charnelle, ce coup de foudre, cette histoire d'amour entre nature. Un vigneron ou une vigneronne, ouais. entre l'humain et la nature. Ouais. Et puis d'un côté, l'idée qu'on mettrait, on épandrait bah, évidemment des produits phytosanitaires, des engrais chimiques, etc., qui... Bah, matraque oui. cette notion oui. de terroir.
Ça commence à changer quand
ça
même.
Commence à changer,
il faut la réduire, la chimie, il faut la réduire absolument, hein, parce que là, ça ne peut pas continuer oui. comme ça.
Et prenez mais d'ailleurs est-ce que ça change le goût du vin, justement?
Ça change pas vraiment le goût du vin, mais ça dit quelque chose, en tout cas, de ce que peuvent être les vins aujourd'hui dans toutes leurs dérives, c'est-à-dire un impact sur l'environnement qui est quand même un peu compliqué à défendre, et puis
sur
aussi ce qu'on peut imaginer en termes de santé. On sait que le vin, qu'il soit bio, naturel ou qu'il soit industriel, ça reste de l'alcool, donc de toute façon, faut y aller logiquement
avec modération,
avec raison, s'il vous plaît, la modération.
Mais c'est vrai que quand un journal comme 60 millions de consommateurs ou Que choisir se penche sur les traces, les résidus de pesticides dans les bouteilles et qu'on trouve dans certains bordelais jusqu'à 17 produits différents dans la bouteille, c'est-à-dire le liquide que vous ingérez, que vous avalez, ça pose quand même question sur l'effet de ces vins sur notre santé.
Qu'est-ce que l'on appelle des vins véganes ? J'arrive pas très bien à comprendre parce que je vois pas où il peut y avoir des
animaux.
C'est
vrai que c'est un peu la grande mode parce qu'évidemment le véganisme touche également l'assiette mais aussi le verre, on le sait un peu moins. Bah, vous savez, il y a une étape dans la vinification qui s'appelle le collage. Alors, il y en a qui s'en passent de cette étape, mais ça consiste en fait à récupérer tous les résidus de levure qui sont en suspension dans le vin, toutes les particules. Ouais. Et là, on utilise une espèce de colle qui est un additif à base soit de blanc d'œuf, de caséine de lait, ou parfois de gélatine de poisson, alors en quantité toute petite. Mais il est vrai qu'un vin vegan qui fait la démarche d'avoir le label vegan, le vigneron remplace ses produits d'origine animale par des additifs végétaux.
Mais est-ce que la majorité des viticulteurs font ça, de rajouter du...
Une grande partie des vignerons sont obligés de coller leurs particules, mais il n'y a pas d'effet sur le goût du vin, c'est en quantité vraiment toute petite, il ne faut vraiment pas s'affoler pour ça.
Et quelle que soit la région, on parle de tous
les
vins...
Dans beaucoup de régions, alors après, vous voyez aussi sur des étiquettes, et c'est notamment un principe défendu par les vignerons dits naturels, en général, vous voyez aussi la mention vin non collé, vin non filtré, vin non sulfité, c'est des mentions que vous pouvez trouver.
Sulfite, voilà.
Alors tout à l'heure, Pierre Arditi disait qu'il ne voulait pas... collectionner, garder comme dans un musée les vins. Est-ce qu'il y en a qui le vivent comme un investissement ? C'est-à-dire, ils achètent du vin, ils le consomment pas, ils le gardent pour soit le revendre, soit garder une valeur.
Ouais, mais si franchement on commence à faire de la spéculation autour du vin, qui doit être
avant
tout.
Il y en a.
Quand Pierre, tu disais tout à l'heure que le plaisir, c'est d'aller choisir sa bouteille et de la partager avec les gens qu'on aime. Je crois qu'il n'y a pas meilleure activité. Alors après, vous pouvez toujours évidemment trouver des buveurs un peu plus précautionneux ou plus prévoyants qui ont envie de faire la culbute sur certains bons millésimes, qui jettent sur des primeurs bordelais, qui en général ont une activité parallèle qui consiste à vendre ces cuvées sur des marchés étrangers, asiatiques ou américains. Est-ce que c'est franchement ce qu'il y a de plus passionnant, quoi ? Enfin, voilà, on a juste envie de boire du vin, éventuellement le garder un peu pour le voir évoluer, parce que le vin est une matière vivante.
On les boit toujours trop tôt, les vins.
Ça veut dire qu'il faut acheter combien de bouteilles à chaque fois pour voir évoluer un vin, en fait ? Concrètement,
alors ça dépend des millésimes, ça dépend des domaines.
Pourquoi tu veux acheter plusieurs bouteilles de vin, je
comprends. Mais un même vin, si on veut le voir, on veut le goûter à une époque.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au minimum, on pourrait considérer qu'une caisse de 12, ça vous permet à des moments différents, un peu jalons, de goûter le vin et de voir son évolution d'année en année. Ouais.
Il y a 12 au minimum. Un élément qui est extrêmement important, et vous donnez quelques noms, Pierre Arditi, dans votre livre, le caviste, c'est-à-dire celui qui va être dans le trait d'union entre le vin, nous faire goûter des vins, et ne pas forcément aller vers des vins qui coûtent une blinde, parce que là, encore une fois, c'est pas le prix qui fait la qualité du vin.
Le caviste, c'est le passeur, c'est le conseiller, c'est comme le sommelier au restaurant, si
c'est
bien
libraire,
son job.
C'est un libraire.
Exactement.
C'est exactement.
On a envie d'aller le voir, il donne des conseils, et si éventuellement on n'est pas tellement satisfait par le résultat dans le verre, eh ben, c'est comme, on change de crèmerie, c'est le cas de le dire, on change de commerce de bouche. Oui. Le caviste, il est essentiel, et je peux vous croire qu'en France, et notamment à Paris, il y a des gens sacrément motivés, amoureux de leur métier, et qui vous font découvrir des choses superbes.
Oui. Et la motivation première n'est pas d'essayer de fourguer des vins les plus chers, mais bien exactement le contraire, y compris chez les sommeliers. Leur plaisir suprême, c'est de faire découvrir un vin qui coûte pas un rond et qui est génial. Alors ça, faut pas s'en priver, parce que il y a des vins qui sont pas... Non mais vous avez raison, il y a des très petites parties d'appart.
Il y a des restaurateurs qui font ça, je me souviens de Jean-François Piège, il m'avait dit mais prends celui-là, c'était le plus le moins cher et pour lui c'était le meilleur de sa propre carte.
Spontanément, on n'ose pas en plus en tant que client aller sur des les moins chers parce qu'on se dit c'est.
En tout cas maintenant, on sait que si on va chez Piège, faut pas prendre le vin le plus cher.
Non, c'est vrai, mais il te dira forcément lui-même, bien sûr, il y a des clients qui veulent eux qui réfléchissent pas et qui croient des connaisseurs, ils regardent pas la vie, ils regardent le plus cher en disant
c'est forcément le meilleur. Il faut quand même considérer que le vin, c'est un sport de riche et qu'on peut, il y a aussi une espèce de fonction statutaire du vin que vous choisissez. Le tel cru ou tel château de telle année, il faut l'avoir sur son tableau de chasse, quoi. Bon.
Pour l'anecdote, un restaurateur, je parle pas Jean-François, c'est pas lui qui m'a dit ça, mais un restaurateur un jour m'a dit, quand il fait la carte des vins, il m'a dit, quand tu choisis un vin, ne choisis jamais celui du milieu, parce que c'est celui, enfin, dans les prix, dans la gamme de prix, il y a le moins cher, il y a le plus cher, il y a le moyen. Il me dit, c'est le moyen sur lequel le restaurateur fait le plus de marge.
Oui, un peu le ventre mou, mais c'est
exactement,
là où
il est. Exactement. Parce que les gens veulent pas faire cheapos en prenant le moins cher.
Ils veulent
pas se ruiner non plus, donc ils prennent au milieu, et au milieu, c'est bing, c'est là où le mec fait ça. x3 en termes de marge. Voilà. Vous retrouvez François-Régis Gaudry demain matin à 7h24 sur Inter, et puis on va déguster. Ça sera de 11h à 12h ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins. N'oublions pas le livre aux éditions Marabout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nagui.
François-Régis, d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Vous ne mangez pas de foie gras?
Non, et pas par choix, lié à une éthique personnelle, pardon, comme vous, Nagui, non, par manque de moyens, hein, puisque pour le prix d'un bloc de foie gras, on peut acheter 120 sachets de curly, donc j'aime autant me nourrir convenablement. Et la ville de New York, ce cloaque bling bling à l'origine des cheveux de Donald Trump, a interdit le foie gras pour 2022. Mais je vais vous parler de ça.
On en reparle après les infos de midi. Bonjour et à nouveau une très très bonne année, évidemment, si vous nous rejoignez dans cette bande originale. C'est reparti avec toute l'équipe et notre invité du jour, Pierre Arditi, venu nous faire partager son amour du vin et le goût de sa belle vie. Le goût de ma vie voyage à la fois dans votre vie, on voit votre parcours, de votre découverte du vin, également avec ses racines belges, puisque vous rappelez que vous avez
ma mère était belge.
Voilà, du sang belge. Vous mettez même.
Je ne savais, de la religion belge, je suis belge.
Je ne savais pas qu'il y avait du vin belge aussi. Ouais, vous racontez les appellations. Ouais.
Il y en a et pas inintéressant
du
tout.
De plus en plus.
Absolument.
On le découvre dans votre livre Lyon, à laquelle vous lancez aussi une déclaration d'amour en disant moi j'avais vu une ville plutôt grise dans
noir.
Carrément, et je crois que c'était à Lyon d'ailleurs où vous découvrez que quand on goûte il faut recracher,
oui,
et pas forcément,
c'est absolument capital, même si on boit des monuments.
C'était à Lyon avec Marcel Maréchal.
C'était à Saint-Étienne quand je jouais Don Juan de Molière monté par Maréchal, et alors on venait en tournée et on va à Saint-Étienne et on est invité à dîner par le maire de l'époque, Michel Durafour. Oui. Tout le monde se souvient du nom et de la mésaventure due à ce nom en question.
Mauvais jeux de mots du Front National.
Oui, très mauvais, pire que ça. Et Madame Durafour, qui était absolument charmante, on parlait un peu de vin aussi, comme ça, j'adorais la côte rôtie. Elle me dit, mais oui, bien sûr, mais je suis une amie de classe de Madame Guigal, le domaine Guigal qui est le pape, l'un des papes de la côte rôtie. Et on nous organise une séance de dégustation le lendemain matin, à jeun, avec un bon petit café, et rien, pas de nourriture de 9h à 13h. Et donc, Marcel Guigal, qui est toujours à la tête de la maison d'ailleurs, nous fait le grand jeu, on déguste tout. La Mouline, la Landonne, la Turque, tout, vraiment tout.
Que des grands noms.
Et des verticales. Et vous, verticales.
Et vous vous dites,
et je me dis,
pas question
peux
de recracher.
Je ne peux pas cracher ça. Il y a un truc comme ça, on ne crache pas. Je ne crache rien pendant 4 heures. Alors évidemment, chaque fois, c'est des doses comme ça.
Une gorgée.
Au bout.
Ouais, on dit c'est qu'une gorgée.
Au bout d'une verticale sur un seul des millésimes, j'ai pété. C'est terminé. On repart titubant. À l'époque, c'est Maréchal qui conduisait déjà très mal quand il était à jeun. Et là, comme il était pété, c'est scandaleux. Non, on arrive donc à l'hôtel. Je vise la porte de l'hôtel pour rentrer. Et là, à 17h, on joue à 20h30.
Et vous dites douche froide et café noir. C'est honteux.
C'est ce que ma mère faisait pour me faire vomir. Bah, c'est immonde.
Vous ne vomissez pas.
Comment ?
Vous n'arrivez
pas à vomir. Et à 20h, je me dis, faut que j'y aille. Donc je revise la porte pour sortir. Je ne suis pas loin du théâtre, donc j'y vais en tirant des bords. Je m'habille comme je peux et j'attends le moment. Et le spectacle commence et j'entends Non, elle n'est pas.
Mais attends, vous dites dans le livre,
déconne là. C'était Maréchal.
Vous dites Maréchal jouait en bulgare.
Non, on a joué. Non. Il jouait pas en bulgare. On a joué en bulgare. Donc lui, les zygomatiques, c'est-à-dire des muscles qui permettent d'avoir une articulation paralysée. Paralysée. Ça va paraître. Donc moi, je suis rentré après. Quoi, tu veux qu'on se lie à une personne à la fois tout ça? Je me colle contre le chambranle de la porte parce que.
Pour tenir, en fait.
Je me dis, si je fais un pas devant, je tombe. Et je vais. J'ai la même voix, même chose. Et le spectacle était vraiment un triomphe, bourré partout.
Oui, aussi.
Silence de mort dans la salle.
Ah oui.
Et les gens ne comprenaient absolument. Parce que les autres acteurs, ils parlaient tout à fait normalement, évidemment. Donc il y avait les deux rôles principaux qui jouaient en bulgare. Voilà.
Il paraît qu'il y a un moment où on doit sauter dans vos bras.
Il y a la scène avec les deux petites paysannes qui essaient de séduire. Et donc dans la mise en scène, elle devait sauter comme ça, elle devait sauter dans mes bras. J'ai été les voir, c'était deux Québécois, je leur ai dit. La fille, vous venez pas. Vous venez vers moi, vous faites des trucs comme ça, vous ne me sautez pas, sinon on tombe. Sinon,
tout ça,
donc c'est drôle, mais c'est pas recommandable.
Et personne n'est venu vous voir dans la loge après, j'imagine.
Non, personne.
Et je
suis sorti par la porte dérobée pour vite m'enfuir, parce que je me suis dit, s'ils me tombent dessus, ils vont me castagner.
Tout ça est dans le livre Le goût de ma vie. Et donc, je reprends votre formule, le vin avec raison, plutôt que
oui,
avec
vous savez pourquoi. Ouais. Parce que, bon, après, on a le droit de dire la modération, mais la modération, c'est rien, la modération, c'est. Ça n'a pas d'intérêt.
C'est la formule, recommandée par le CSA.
Oui, mais bon, c'est pas la raison, c'est-à-dire ça.
Réfléchir.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien comprendre que ce breuvage qui est magnifique est un ami admirable quand on le partage et qu'à un moment donné, il peut devenir un ennemi et qu'on ne peut pas laisser au vin le droit de prendre à votre place.
C'est exactement la formule
donc,
que vous employez dans le livre
la
également.
Raison, ouais. C'est l'initiation et l'initiation, comme vous le savez ou pas, c'est la culture du père.
Chez Hugo Doc, ce livre de Pierre Arditi. Oui, signé Pierre Arditi. Voici Tanguy Pastureau. À compter de 2022, Tanguy, le foie gras New York, c'est fini.
Oui, et moi, ça me rend heureux parce que je suis un écolo bobo vegan, d'après les messages que je reçois à chaque fois que je défends les bêtes, les souris, les singes, les poux d'Alain Souchon. Le foie gras, certains disent qu'il s'agit d'un foie malade. Or, j'ai du mal à m'imaginer manger un organe défectueux, le cerveau de Karine Ferry. Est-ce que je le mange? Non. Le sexe de René, mon tonton qui a 75 ans. Est-ce que je le mange? Non. Ma famille est assez dysfonctionnelle comme ça, ça mettrait une mauvaise ambiance. Donc, les canards, je les aime vivants. Et je sais qu'en disant ça, je me mets à dos mon public du Sud-Ouest. Cette région où on lapide votre portrait, Nagui, à coups de côtelettes. Mais tant pis, je le dis, les animaux, je les aime en vie. Kiki, par exemple, mon teckel, que j'ai fait empailler pour qu'il ressemble à Arlette Chabot. Et bah, depuis qu'il est mort, il me rapporte plus la balle. Et j'ai pas envie de la mettre à la poubelle, je suis pour le zéro gaspille. La laisse, pareil, je l'ai gardée, le soir, je la mets et je sors faire pipi. J'ai sympathisé avec Jean-Claude, un voisin sympa, mais qui me demande de l'appeler maître. Il tire sur la laisse en criant, viens visiter ma cave. Enfin, une petite relation s'est nouée entre nous. Hein, d'autant que les traces des lanières de cuir dans le dos, ça part très vite avec un peu de pommade. Donc quand j'ai appris que la ville de New York, ce vivier à milliardaires botoxés, allait interdire le foie gras, j'étais content. Je me suis dit, le jour où j'ai assez de blé, je me paye à penthouse là-bas. Puis j'ai vu ma voyante, elle m'a conseillé de plutôt viser un petit F1, porte de la chapelle. Alors attention, seul le foie gras issu du gavage des animaux sera interdit. L'autre foie gras, celui où on invite le canard chez Flunch, avant de lui dire ici c'est formule buffet, tu manges ce que tu veux mon bébé, restera admis. Donc aux États-Unis, ce pays progressiste, qui a osé il y a 3 ans élire le seul pot rouge à rien du pays, Donald Trump. Ben, c'est passé comme ça, mais en France, mais les gens râlent. L'autre soir, c'est à vous, émission qui consiste à gaver les invités pour qu'ils racontent moins de conneries, hein, parce que quand on mange, on ne parle pas, c'est pour ça qu'on entend peu Gérard Larcher. Hein. Et ben, ils ont fait un débat sur l'interdiction du foie gras, les deux invités étaient contre l'interdiction. C'est comme d'organiser une conférence intitulée « Pour ou contre le voile » avec juste Diam, c'est le président du CCIF. Jean-Luc Petit-Renaud, le chroniqueur gastronomique dont le côlon a été tellement utilisé qu'il s'est syndiqué à EFO pour dénoncer ses conditions de travail, était invité chez Morandini sur CNews. Et il a dit « Le problème, c'est que le canard n'a pas la parole. Alors d'abord, c'est faux. Il est juste sous-représenté dans les médias. Il y a les Arabes, les Noirs et les canards, hein, qui eux sont vraiment communautarisés parce qu'ils vivent entre eux dans des étangs. Ils ne se mélangent pas. Vous avez déjà vu un canard au modem de François Bayrou, vous? Non. Et un être humain? Non plus. Hein. Puis Petit Renaud ajoute, s'il parlait, le canard pourrait peut-être nous dire, j'en ai ras-le-bol de leur tube pour me nourrir.
Et là, on réalise qu'on ne sait pas que ce que le canard pense.
Mais non, parce qu'on n'a que le point de vue des humains. Mais qui nous dit que quand deux canards se croisent, il n'y en a pas un qui dit à l'autre, dis donc, hier, t'as loupé une grosse orgie. On a bouffé chacun 7 kilos de maïs avec un tube. Le géant vert en personne est venu nous saluer. Qui nous dit que le taureau de corrida, dans son fort intérieur, ne se dit pas, ok, ça fait mal, mais il y a pire comme job, je pourrais être Amélie Nothomb et attendre d'avoir un jour le prix Goncourt. Et qui nous dit que le cochon, au moment d'être abattu, ne hurle pas, oh oui, Justin Bridoux, éclate-moi la gueule. On ne sait pas, on ne comprend pas les animaux. Même les acariens qui vivent dans la barbe de Daniel Morin, si ça se trouve, quand ils se lavent, chaque lundi matin, ils lui crient, ne drasse pas, nous allons perdre notre habitat. Jean-Luc Petit-Renaud, qui est moins con qu'il n'y paraît, a raison, on n'a pas le point de vue du canard. Il ne rote même pas, donc on peut pas savoir s'il est ballonné ou non. Et là, Jean-Marc Morandini, à ces mots de Petit-Renaud, se met à réfléchir, ce qui lui fait une tête inédite. Hein, il a les yeux dans le vague. On voit qu'à cet instant, la part en PDA, n'oubliez pas les paroles, il s'en tape comme le groupe 3 Cafés Gourmands du sens du ridicule le jour où ils ont choisi leur nom de scène. Hein, ils étaient chez Hippopotamus, sur fin de repas. Hein, ils ont failli s'appeler La Note, s'il vous plaît, c'était très bon, ce sera par carte. Là, Morandini pense à Access Prime Time, son chien, et se dit, si ça trouve, il ne m'aime pas. Il n'a pas la parole, alors j'en sais rien. Est-ce que lécher, c'est aimer? Et donc, il rebondit sur la maltraitance animale. Et Petit-Renaud de lui répondre, ouah, que dalle, un mannequin qui ne mange pas et qui dans la rue lorgne sur mon éclair au chocolat parce qu'elle se prive, ça me fait souffrir. Alors, l'éclair au chocolat étant un symbole phallique, attention, le mannequin ici a peut-être juste une grosse envie de sexe. Hein, mais on ne le sait pas puisque le mannequin, comme le canard, ne parle pas. Il défile sur la musique lounge de Baltringue tandis qu'Anna Wintour au premier rang fait la gueule. Donc, je le dis à Jean-Luc Petit-Renaud, il faudrait se balader dans la rue avec une religieuse et voir les réactions des gens. Personne n'a envie de coucher avec une religieuse, même si le pape François y a pensé une ou deux fois. Hein, puis pour se calmer, il a lavé quelques pieds de pauvre et ça l'a refroidi parce que ces gens ne font pas de pédicure par snobisme, sans doute, enfin le côté bohème. Bref, on ne saura jamais ce que les canards pensent du gavage. Moi, je pense qu'ils aiment bien, mais
non,
on ne sait pas.
Tanguy Vassero-Mer.
La bande originale, lundi, sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale, celle de Pierre Arditi, qui est notre invité ce matin sur France Inter pour parler du goût de ma vie. C'est le titre de son livre. Voici Beautiful, c'est le titre d'Ayo dans la bande originale.
You're looking in the mirror, but you can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, lit of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are?
C'était Beautiful Ayo dans la bande originale de Pierre Arditi. Allez, c'est l'interro maintenant, on va s'amuser avec des questions concernant une historienne de l'art, Véronique Antoine Andersen, qui a calculé le temps passé devant chaque œuvre en moyenne par un visiteur dans un musée. Combien de temps à votre avis?
3 secondes. C'est très rapide, c'est une catastrophe.
7 secondes. Une petite minute et encore.
Une minute, 3 secondes.
13 heures.
20 secondes.
15 secondes.
20 secondes.
Non. 10.
Ouais.
En quelques secondes. Ouais.
10 quoi?
Presque.
Seconde. Bah, secondes.
7 secondes.
Ouais.
Il y a tellement de choses à voir.
Non, 10 secondes. Ouais. 10 secondes devant une œuvre.
Ah ouais, mais c'est une moyenne.
C'est fou.
Mais regarde.
Bah, c'est une moyenne. Oui, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de regarder une œuvre.
Sauf la Joconde, parce qu'il faut déjà 2h30 pour accéder au tableau.
Ouais. Oui.
Non, mais c'est que les gens la prennent en photo souvent et la regardent pas et ils partent.
Oui, c'est bien.
En se disant, je l'emmagasine, j'en regarderai plus tard.
La Joconde attire entre 15 000 et 20 000 visiteurs par jour.
Oui, mais bon, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Genre, c'est une toile qui est belle. Il y a des toiles de Léonard de Vinci qui sont nettement supérieures. Mon père a passé sa vie à aller au Louvre.
Ouais.
Il dit, mais j'ai pas assez de ma vie pour voir tout ce qu'il y a. Puis il allait gueuler, il allait dire, mais où est le tableau de Ghirlandaio? Le mec dit, bah, je sais pas, bah, pourquoi il est pas là? Il dit, monsieur, parce qu'il est dans les réserves. Mais il n'est pas dans les réserves, faut le remettre là, il était là. C'est extraordinaire, on a été inondés par... Non, mais c'est terrible, les gens. Je sais plus qui disait, un peintre, c'est quelqu'un qui regarde pour les autres. C'est une très belle phrase. Je me demande si c'est pas Dufy qui a dit ça, une chose comme ça.
Daniel?
À savoir qu'en Chine, il y a des tours opérateurs qui proposent en une semaine de faire le tour de l'Europe.
En une semaine?
Une semaine.
Enfin, vous connaissez la célèbre phrase de... Vous allez me trouver le nom, va me revenir, vous inquiétez. Degas. J'ai dit, dans la peinture, il n'y a rien à comprendre. C'est comme la merde, ça se sent. Voilà. Je cautionne.
D'accord. Voici, pardon pour l'enchaînement.
Très bien. Non, mais
c'est comme ça. C'est comme ça.
Allez, une petite aération. Voici Marina Rollman.
On va tout expliquer tout le temps.
Bonjour les amis, on a parlé et bien de vin dans cette émission et moi je voulais parler d'alcool en général et de notre rapport, nous les humains, avec ça. Parce que je me faisais cette réflexion ce week-end, je me disais, si tu dézoomes, si tu devais expliquer l'alcool à un extraterrestre, c'est un jus, facile à se procurer, qui te donne chaud, qui enlève tes soucis, qui te désinhibe, qui te désangoisse, qui te rend euphorique. Et donc la question c'est, mais pourquoi on le réserve au moment où tout va déjà bien? Pourquoi on n'en prend que quand on est entouré de gens qu'on apprécie, qu'on n'a rien d'autre à faire que de profiter, qu'on a à manger, qu'il fait chaud, qu'il n'y a pas de prédateurs, en gros qu'on a tout pour kiffer. Alors que quand on fait la queue à la poste, qu'on va demander un prêt à la banque, qu'on passe un examen, qu'on va chez le dentiste, qu'on va voir un spectacle de fin d'année, qu'on va au boulot, là on tient absolument à être sobre. Là on veut vraiment avoir tous les sens en éveil, vraiment en pleine possession de nos moyens pour jouir de chacun de ces instants magiques que l'existence propose. Alors que c'est là qu'on devrait se pinter la gueule. Déclaration d'impôt, on devrait être à 3 grammes. Visite chez Ikea, coma éthylique. Qu'est-ce qu'on a besoin de les vivre, ces moments? T'imagines que dans un mariage, la partie où il y a un monsieur qui fait semblant de connaître les mariés, qui dit des trucs très gênants que personne comprend, qui très clairement refourgue le truc bateau qu'il a dit au mariage précédent en changeant les prénoms. Bref, pendant cette interminable seul en scène pseudo-mystique, on est sobre, mais qu'en revanche, on se nique le foie pour oublier la partie où on aurait fait que rigoler et danser. Essaye d'expliquer ça aux aliens. Nous, notre truc sur cette planète, c'est quand on va pas bien, on veut vraiment être là, tout bien ressentir, et quand on se marre, on essaie vraiment de s'anesthésier l'âme. Si on peut ne pas en avoir de souvenirs, c'est idéal. C'est pareil pour les drogues, c'est réservé au moment libre, alors que la vie n'est qu'une longue succession de malaises constamment. La vie, c'est quand même... C'est compliqué un peu, non? Ma foi, interagir avec des gens tout le temps, alors que les gens, globalement... C'est horrible. Alors évidemment, les optimistes vous diront, mais on peut pas faire des généralités sur les gens. Chaque être est unique dans la singulière expression de sa musique intérieure. C'est pas vrai. Il y a que deux types de gens sur la planète. Il y a que deux. Et ils sont aussi terribles l'un que l'autre. Il y a les gens que tu connais et les gens que tu connais pas. Et alors au début, moi, je pensais que c'était mieux les gens que tu connaissais pas. Parce que les gens que tu connais, c'est toujours décevant. Les gens que tu connais, c'est genre ton cousin. T'as grandi avec, vous vous êtes pas vu depuis 15 ans, mais là il passe vers chez toi dans 2 semaines, donc vous allez devoir dîner, alors qu'entre-temps il est devenu conspirationniste. Le fait de connaître cette personne, ça ne t'amène que des emmerdes finalement, alors qu'un livreur Deliveroo, jamais vu une minute avant, tu le reverras jamais de ta vie après, mais tu l'accueilles comme le Messie. Une joie, cet homme qui porte la lumière et la félicité comme ça. Mais maintenant, plus je fais ce métier, plus je suis amenée à rencontrer des gens que je connais pas. Et en fait, c'est pas top non plus, les gens qu'on connaît pas. Parce que tu peux pas leur dire la vérité, les gens que tu connais pas. Alors, ils sont hyper sympas, mais ils te demandent des trucs genre « Bonjour, moi je débute dans l'humour et donc je voulais savoir si vous seriez d'accord qu'on se voit pour discuter de mon spectacle. Je pensais qu'on pourrait se voir peut-être 3 fois par jour à raison de 6 heures par séance. » Toi, tu le connais pas, donc tu peux pas dire la vérité. Alors moi, je me retrouve à inventer des nouveaux mots. En ce moment, je dis beaucoup. Hein ? C'est ni oui ni non, ça dépend de l'intention. Hein hein. Et c'est un son qui n'existe qu'en vietnamien, je crois, et pourtant je l'emploie tout le temps, comme Pierre Arditi qui parle bulgare parfois, moi je dis hein. Et le truc, c'est que si je buvais à ce moment-là, mais je lui dirais à ce pauvre monsieur, mais bien sûr que non, monsieur, ça m'emmerde, mais j'ai rien contre vous, mais enfin voilà, c'est la vie, et tout irait mieux. Et ça m'amène à la tension du moment, Tanguy Pastureau en parlait mercredi, beaucoup de médias en ce moment, on est tendu sur les musulmans en particulier, hein. Oui. Des intellectuels, des journalistes, des politiques, ils sont tendus, ils vont sur des plateaux, ils sont tous entre eux. Ils sont tous blancs, pas musulmans, plutôt des mecs, plutôt hétéros, et ils sont là. Hé, la dérive communautaire dans tout ça. T'es là, mais.
Et toi ?
T'as vu ton plateau, gros ? Faut voir avec les RH, mais je crois que le fait que sur vous, 5, il y en ait un qui ait mis des chaussettes rouges, ça compte pas comme une minorité visible. Mais donc, ils sont là, ils sont tendus, ils se posent des questions, ils s'arrêtent pas de se poser des questions. Mais est-ce que le musulmanisme est-il bien légal ? Contribue-t-il au trou dans la couche d'ozone ? Et comme ils sont souvent assez fiers des traditions françaises, je me dis, on a l'équation suivante. On a des gens qui sont très tendus, et on a des gens en même temps qui sont très fiers de pouvoir boire de l'alcool. Mais buvez un coup, les gars, je vous jure, ça va détendre tout le monde. Et même si vous le faites au bureau, personne ne vous en voudra, au final.
Merci, Marina Rollman. Est-ce que...
Avec Nagui.
Est-ce que, justement, dans Le Goût de ma vie, vous parlez de vos amis, ceux qui vous ont aussi bien éduqué vers le vin, ou guidé, ou fait découvrir de nouveaux horizons, mais il y a ceux aussi avec lesquels vous partagez des moments, il y a ce mot « ensemble » qui revient très souvent dans votre livre, ouais. Et bizarrement, il y a un ami qui ne boit pas de vin, et qui est toujours là avec vous, et qui vous met encore en scène avec Michel Leeb, donc compromis. Bernard Murat ne boit pas, vous ne voulez pas.
Il y en avait un autre, René, il ne buvait pas de vin.
C'est
il
vrai
avait du vin dans tous ses films, et lui n'en buvait pas. Oui. Ouais.
Est-ce que ça, vous pouvez comprendre vos amis qui disent « Non, je ne veux pas boire de vin ».
Il n'aime pas ça. Voilà, il n'aime pas ça. Mais il y a Ribes, Jean-Michel Ribes, par exemple. Il ne boit pas non plus. Il dit « Tu veux que je boive un verre de vin ? D'accord, je vais m'évanouir dans une seconde, mais si tu veux, pour toi, je le fais. » Je dis « Ben non, ne bois pas. » Il dit « Parce que moi, tu me fais boire une gorgée de vin, je m'évanouis, je tombe. »
Donc on peut être ami avec vous et pas forcément
bien
trinquer.
Sûr, bien sûr,
il y a tellement dans le partage.
Je fréquente heureusement des gens qui aiment ça aussi. Je veux juste vous dire un truc. On ne boit pas du vin pour que tout aille bien, on boit du vin parce que tout va bien. Ça n'a rien à voir.
Bah oui, mais c'est le paradoxe un peu, non ?
Bah non, c'est pas le paradoxe, parce qu'on ne laisse pas au vin.
Non, parce que. Non, c'est ça, c'est parce que ça va bien, tu bois du vin.
Oui, mais je dis, c'est un peu le paradoxe. Moi, je parle de l'ivresse. Je ne parle même pas du vin en général, je parle de l'ivresse. De réserver l'ivresse aux moments qui vont bien. Alors que l'ivresse, en fait, on devrait en profiter pour anesthésier
les embouteillages.
Non, mais dans ces cas-là, vous donnez au vin un pouvoir qui, en aucun cas, ne peut être le sien. C'est-à-dire que quand vous vous bourrez la gueule ou quand un truc comme ça, pourquoi pas
on peut boire du vin sans se bourrer la gueule.
Oui, moi, non, mais on peut aussi avoir envie d'une ivresse.
Leïla, qu'est-ce que tu as retenu du goût de ma vie du goût de ma vie.
Ensemble, c'est vrai. C'est un mot qui revient très, très souvent. Ouais. Parce qu'on sent cette envie de communion et de partage.
Marina Rollman.
Moi, ça m'a fait penser à un livre de James Salter qui s'appelle Chaque jour est un festin. Et c'est une espèce de guide du bien vivre, du bien boire, qui célèbre un peu la vie. Et voilà, c'est un autre livre que je recommande.
Tant qu'il passe sur
vous. Moi, ça me rappelle toujours des bons souvenirs parce que je suis né à Pessac, toute ma famille s'est mariée au château de Barbe dans des coteaux de Blaye, etc. Ah, ça me rappelle mes grands-parents, tout ça. Enfin voilà, beaucoup de choses.
Ah, t'as baigné là-dedans,
ouais. J'ai baigné là-dedans.
Ah, t'es pas que breton.
C'est pour ça.
T'es
breton.
T'es pas que breton.
Ben non, enfin, c'est un peu compliqué. Mes parents sont rencontrés à la fac de Bordeaux et puis après, ils sont allés vivre en Bretagne. Voilà, j'ai continué à boire, bien sûr.
Il y avait de l'alcool, ouais.
À Pessac, vous étiez à Pessac.
Je suis né à Pessac, ouais.
Alexis Rossignol.
Moi, je suis né à Parthenay dans les Deux-Sèvres.
Je le sentais. Je l'ai vu arriver tout de suite, le scud.
Non, mais vous avez dit ce matin en arrivant, on n'arrivera pas à faire une heure et demie sur ce bouquin, mais on a réussi finalement.
Salut. Albert Algou.
Moi, c'est l'initiation, notamment essayer le coulommier avec le champagne, ou le camembert aussi.
Ah. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des...
Camembert, ça marche très bien.
Il y a des propositions, en fait, absolument. Ouais. Daniel Morin.
Ouais. Bah que même si on n'aime pas le vin, c'est vraiment un livre qu'il faut se procurer. Il y a des photos de Pierre Arditi qui sont d'une beauté. Vous êtes vraiment très, très beau, et notamment page 140, on dirait un croisement entre Nosferatu et Elton.
Côté Dracula,
c'est à ne pas louper.
Chez Hugo Doc, je le dis correctement cette fois, Pierre Arditi, Le goût de ma vie, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Ah, bien sûr, déjà désolé pour Alexis Le Rossignol, qui s'est fait malmener, insulter, tambouriner par Arditi. Or, comment dire, je sais pas, c'est vrai que c'était ultra violent quand même, et en même temps, je suis sûr que derrière tout ça, il y a de l'admiration, il y a peut-être même un peu
d'amour.
Oui, ouais. Ou de la jalousie, ou du désir. Enfin, bref, je sais. Désolé pour les SLM, Nicolas Demorand, Laure Adler, ou encore Augustin Trattenard, bref, tous les alcooliques de France Inter, qui se sont précipités dans ce studio pour boire un coup avec Pierre Arditi. Eh oh, les gars, attendez, c'était pas de la piquette et de l'alcool à brûler, hein. On est dans le grand monde, restez dans vos placards, vilain poivreau. Bon, cela, je vous jure,
mais ça va pas.
Mais vous les connaissez mal, vous verriez, ils sont désolants. Et désolé, enfin, pour les trois jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui ont été un peu perdus lors de nos débats sur les locomotives, les souvenirs des débuts de Guy Béard. Alors, comment vous dire, les gars, ben, c'est France Inter, et ici, l'adolescence commence à 65 ans.
Merci, Pierre Arditi.
Merci au nom de l'art dramatique.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Sylvain Tesson qui sera notre invité. Mais tout de suite, voici le carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Passez une très bonne journée et à demain.